VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 24 février 2016. À la une ce soir.
Une nouvelle attaque terroriste au Mali, 3 militaires tués la nuit dernière dans la région de Tombouctou.
Au Niger, le parti au pouvoir rejette les contestations de l'opposition suite à la publication des résultats partiels des élections.
Comment est-ce que dans un système électoral où vous êtes représenté à tous les échelons de la structure, vous pouvez venir au sommet contester les résultats alors que vous n'avez pas reçu la remontée des résultats de la base?
Journée ville morte au Tchad, l'appel de la société civile a été suivi à N'Djamena et dans les autres grandes villes du pays.
À Ouagadougou, les Burkinabés réagissent, souvent avec colère, à la naturalisation ivoirienne de leur ancien président Blaise Compaoré.
Ça nous fait très très mal parce qu'il est burkinabé. Il a dirigé ce pays pendant 27 ans pour prendre la nationalité pour fuir la justice. Je ne suis pas contente.
Élection primaire ici aux États-Unis. Donald Trump remporte sa troisième victoire d'affilée, inquiétant davantage l'establishment républicain.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Mali, 3 soldats ont été tués la nuit dernière dans une attaque lancée par des djihadistes présumés dans la région de Tombouctou. Idriss Fall nous en dit plus.
Selon l'AFP qui cite une source militaire malienne, c'est un poste de l'armée qui a subi une attaque à l'Héré au sud-ouest de Tombouctou. Les assaillants, qualifiés de terroristes, ont pu s'échapper. Deux habitants de cette localité près de la frontière avec la Mauritanie ont confirmé l'attaque survenue cette nuit. Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs assauts contre l'armée malienne. Le 19 février, des djihadistes présumés ont attaqué une position de l'armée dans la zone de Menaka, tuant au moins un soldat. Le 12 février, 3 militaires maliens ont péri dans une embuscade entre Tombouctou et Gundam. En 2015, un accord de paix a été signé entre Bamako et des groupes armés du Nord, mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, onusiennes et françaises qui opèrent dans le pays.
Actualité au Niger, poursuite du dépouillement du scrutin présidentiel. Les résultats tombent au compte-gouttes. Après décompte de 15% des voix dans 50 des 308 communes du pays, le président Mamadou Issoufou était en tête avec environ 33,78% des suffrages, suivi de Ama Amadou et Seni Oumarou. Mais l'opposition annonce son intention de ne pas reconnaître les résultats publiés par la Seni. Les opposants dénoncent des fraudes électorales perpétrées selon eux par le parti au pouvoir. Allégation rejetée par la mouvance présidentielle. On écoute Oumoudou Mahamadou, directeur de campagne du président Mahamadou Issoufou.
Nous, parti membre de la mouvance présidentielle, nous savons que cette déclaration est totalement mensongère. Parce que comment est-ce que, en début de proclamation des résultats, vous pouvez déjà annoncer que les résultats sont faux? Comment est-ce que dans un système électoral où vous êtes représenté à tous les échelons de la structure, vous pouvez venir au sommet contester les résultats alors que vous n'avez pas reçu la remontée des résultats de la base. Donc, par rapport à ça, nous avons dit que nous n'accepterons pas ce mensonge.
Oumoudou Mahamadou, directeur de campagne du président nigérien Mahamadou Issoufou, au micro de Nicolas Pinault.
Au Tchad, la journée ville morte, organisée aujourd'hui à l'initiative des organisations de la société civile a été suivie dans la capitale N'Djamena et dans les villes principales du pays. On fait le point avec notre correspondant sur place, André Komadjingar.
Pas d'engouement dans la ville de N'Djamena. Les opérateurs économiques ont refusé d'ouvrir leurs boutiques et alimentation. Même les grands lycées de la capitale tels que le lycée Félix Eboué, Technique Commerciale, Tchilam Tchilam, La Paix et autres établissements secondaires et primaires ainsi que les institutions universitaires sont hermétiquement fermés. Les marchés de Dombé dans la commune du 6e arrondissement, de Digel dans le 8e arrondissement, le marché à Mille et le marché central dans le 3e arrondissement sont déserts. Quelques vendeurs de légumes et de crudités sont visibles aux abords de ces marchés. Même constat au ministère ministère des Finances et celui de la fonction publique, principaux employeurs et gestionnaires des agents de l'État. À la solde, un service du ministère des Finances, sauf les agents en charge du traitement des dossiers pour le salaire du mois en cours, sont en poste. Nous sommes venus pour faire plaisir à notre ministre qui a eu le culot de nous intimider à la veille de cette journée en demandant aux inspecteurs de relever systématiquement les noms des absents, a déclaré un chef de service au ministère de la fonction publique. Pour le rapporteur adjoint de la coalition Trousse et Trousse, Banadi Boguel Purus, la mobilisation sans précédent de la population tchadienne prouve à suffisance le niveau de prise de conscience de la population et son engagement à œuvrer pour une alternance au pouvoir et une justice équitable pour la jeune fille violée par le fils des hauts cadres de la République. André Kodouma Dingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Crise au Burundi, l'un des cinq chefs africains, cinq chefs d'État envoyés par l'Union africaine est arrivé ce mercredi après-midi à Bujumbura. Quatre autres chefs d'État sont attendus demain dans la matinée. Ils ont été envoyés par la Commission paix et sécurité de l'Union africaine pour tenter de trouver une issue à la crise née avec le troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza. Reportage de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé ce mardi dans le cadre de l'envoi des cinq chefs d'État africains pour trouver une solution à la crise burundaise qui vient de faire plus de 10 mois. Quatre autres chefs d'État gabonais, sénégalais, sud-africains et le premier ministre éthiopien sont attendus jeudi à Bujumbura. Ces chefs d'État africains ont la mission de convaincre leur homologue burundais d'accepter un dialogue inclusif avec les opposants en exil sans condition, mais également de permettre l'envoi d'une force pour protéger certains quartiers contestataires qui sont souvent la cible des agents de force de l'ordre. Le pouvoir de Bujumbura a toujours nié la venue de cette force, préférant un dialogue inter-burundais où l'opposition est absente. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a quitté Bujumbura mardi avec la promesse du chef d'État burundais qu'un dialogue inclusif va bientôt démarrer, mais qui exclut ceux qui ont pris les armes pour s'opposer au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. La délégation du Conseil de sécurité de l'Union africaine, conduite par le Sud-Africain Jacob Zuma, devra convaincre les autorités de Bujumbura des bienfaits d'un dialogue inclusif et de l'envoi de la force de 5000 hommes de la MAPROBOU. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Ouverture ce mercredi à Kinshasa de la conférence internationale sur l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Dans son intervention en la circonstance, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a plaidé pour une bonne gouvernance dans la région, gage d'un développement économique et social sur des bases stables. Selon Ban Ki-moon, cela permettra notamment à la population de la RDC de mettre en œuvre toutes les ressources naturelles du pays.
J'ai eu l'honneur de venir en RDC et dans la région des Grands Lacs à plusieurs reprises depuis que je suis secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. J'en suis toujours reparti fasciné par l'ampleur des possibilités qu'elles offrent. Leur potentiel est immense. On le sait, la région possède d'abondantes ressources naturelles. Mais on sait moins que ses habitants sont très travailleurs. La succession des conflits et des souffrances les a empêchés de réaliser leur potentiel. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables.
Le secrétaire général de l'ONU au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Élection primaire aux États-Unis, le milliardaire américain Donald Trump a conforté son avance dans la course à l'investiture républicaine, remportant 46% des suffrages dans le Nevada face à ses rivaux Marco Rubio et Ted Cruz. John Lyndon.
C'est une nuit incroyable, a déclaré Donald Trump à ses partisans dans un discours célébrant son triomphe. On ne s'attendait pas tellement à gagner. Nous allons gagner le pays et bientôt c'est le pays tout entier qui va gagner, s'est-il félicité de son siège de campagne à Las Vegas. Trump avait déjà remporté les primaires républicaines en Caroline du Sud et dans le New Hampshire. Seul l'Iowa lui a échappé pour l'instant, le sénateur Ted Cruz y étant arrivé en tête. Aux deuxième et troisième places dans le Nevada, loin derrière Donald Trump, le sénateur de Floride Marco Rubio et Ted Cruz étaient crédités de respectivement 23 et 21% des suffrages. La victoire de Donald Trump était largement attendue. Le New-Yorkais de 69 ans s'est montré confiant pour le reste des primaires et notamment pour le Super Mardi, scrutin qui se déroule simultanément dans une douzaine d'États et qui aura lieu mardi prochain.
L'ONU a largué pour la première fois par avion de l'aide humanitaire en Syrie. C'est ce qu'a annoncé le patron des opérations humanitaires des Nations Unies. Selon Stephen O'Brien, ce matin, l'avion du Programme alimentaire mondial a largué une première cargaison de 21 tonnes de provisions à Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Et l'opération a réussi. Les palettes larguées ont atterri dans la zone ciblée, comme prévu, a-t-il précisé.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique, c'est tout de suite avec Anastasie Tudiech.
Au Sénégal, du 3 au 5 mars prochain, Dakar accueille le premier forum africain du business halal. L'objectif, selon les organisateurs, est de favoriser les échanges commerciaux entre hommes d'affaires sénégalais et investisseurs provenant des pays arabes et asiatiques, membres de l'Organisation de coopération islamique. Le potentiel de ce marché en Afrique est de 150 milliards de dollars américains. Le halal non alimentaire, qui se réclame des recommandations de l'islam, comprend, lui, des secteurs aussi divers que le tourisme, la mode, les produits cosmétiques ou les jouets d'enfants, les médias également, un marché estimé à 2300 milliards de dollars. En Afrique du Sud, nouvel épisode dans le dossier qui oppose MTN, le géant sud-africain des télécommunications, et l'État nigérian. MTN a indiqué aujourd'hui avoir versé 250 millions de dollars à l'autorité de communication du Nigeria et retiré son action en justice pour contester l'amende géante de 3,9 milliards de dollars qui lui avait été infligée. L'amende, qui représente une année et demie de bénéfices du groupe, sanctionne MTN pour n'avoir pas respecté en août 2015 l'ordre de désactiver toutes les cartes SIM anonymes. Selon l'agence APA News, les nouvelles autorités du Burkina Faso misent sur les énergies renouvelables pour faire face au déficit d'énergie électrique dans le pays. C'est dans ce contexte que les États-Unis vont y implanter une agence des énergies renouvelables. Les autorités burkinabées pourront bénéficier d'un appui américain dans le développement des secteurs énergétiques et miniers, tandis que les entreprises minières américaines auront accès aux ressources minières burkinabées. Le Burkina Faso compte 400 000 orpailleurs.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Nous passons tout de suite au sport avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Football. L'attaquant franco-algérien de Lille, Yacine Benzia, a choisi de porter les couleurs de l'Algérie, les Fennecs.
Nouvelle annoncée aujourd'hui par la Fédération algérienne de football sur son site internet. À 21 ans, Benzia a déjà marqué 5 buts en Première Ligue et a fait partie des équipes de France de jeunes.
Qui sera le prochain président de la FIFA? Un député britannique accuse l'un des candidats, le Cheikh Salman, de corruption.
Ce prétendant de poids à la présidence de la FIFA, comme vous le dites, Gabi, serait impliqué dans un scandale financier, ce qu'a aussitôt démenti l'intéressé. Et devant la Chambre des communes, le député conservateur Damian Collins a accusé le Cheikh Salman d'avoir négocié le soutien du Kyrgyzstan à son élection à la présidence de la Confédération asiatique en 2013 contre des promesses d'aide financière à des projets sportifs. Et puis Gabi, le député qui a réclamé une enquête en urgence, a même estimé que si Salman était choisi pour diriger le foot mondial, l'Angleterre ne devrait plus recevoir de compétition organisée par la FIFA.
Déclaration seulement d'un député, il faut le dire. Le candidat de l'Europe, Gianni Infantino, en tête des intentions de vote devant Salman cependant.
Le vote, c'est vendredi, Gabi, et le décompte des intentions de vote réalisé par l'AFP auprès des 209 fédérations membres de la FIFA appelées à voter, sans parmi elles, ont affiché leur position, dont 68 pour Infantino, tandis que les autres n'ont rien exprimé.
Parlons de l'Europa League, Liverpool et Manchester United dans le vertige, Eric.
De contre-performance match aller, Gabi, et les voilà au pied du mur. Liverpool tenu en échec par Augsbourg, 0-0 et Manchester United battu par les Danois doivent s'imposer demain à domicile pour arracher la qualification des huitièmes de finale.
Parlons basket pour terminer.
Oui, les résultats d'hier, Portland a battu Brooklyn 112-104, Denver Sacramento a perdu 110-114, Utah a battu Houston, différence de 3 points, Philadelphia a perdu face à Orlando de 9 points et Washington a battu la Nouvelle-Orléans. Et les classements Conférence Est, Cleveland, Toronto, Miami prennent les premières places. Et à l'Ouest, c'est Golden State, ton équipe préférée.
Suivi de San Antonio. San Antonio, c'est mon équipe préférée. Il ne faut pas commettre cette erreur.
Et merci. Oklahoma City de Morgan, troisième.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Heureux d'être en votre compagnie, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir est à Niamey.
Au Niger, donc, 3 jours après le scrutin présidentiel. Toujours pas de résultats provisoires globaux. La CENI dévoile au compte-gouttes les résultats. Une lenteur critiquée et des premiers résultats déjà rejetés par l'opposition. Le point avec l'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pinault.
À peine 10% des résultats de la présidentielle ont été dévoilés jusqu'à mardi soir. Un processus anormalement long qui alimente la suspicion grandissante dans la capitale Niamey. Sans attendre le dépouillement final, l'opposition regroupée au sein de la coalition pour l'alternance a déjà fait savoir qu'elle rejetait ses résultats. On écoute Amadou Boubacar Cissé, candidat à la présidentielle.
Il est évident que tel que ça a été proclamé jusqu'à maintenant, on ne peut pas les reconnaître. Mais on demande aux militants de résister, de ne pas accepter ce qui se passe, parce que c'est totalement contraire à ce qui a été exprimé par les urnes. Et la stratégie d'endormir les militants et d'endormir les partis politiques en donnant des résultats au compte-gouttes, nous l'avons très bien compris.
La COPA 2016 dénonce des bureaux fictifs et des résultats qui ne correspondraient pas avec la réalité du vote de dimanche. La CENI a déjà répondu que les 2600 bureaux fictifs de la région de Zinder n'existaient pas. L'opposition nigérienne appelle ses militants à résister sans dire comment. La société civile est plus directe. Résistance citoyenne appelle à manifester s'il le faut, Moussa Tchangari.
Nous allons faire des mobilisations, même si, là encore, on a pris des mesures pour annoncer que toute manifestation demeure interdite, par exemple en ce qui concerne la capitale, ce qui déjà est suspect, et pour une durée indéterminée. On ne peut pas empêcher aux gens, s'ils pensent qu'ils doivent le faire, de manifester, c'est leur droit absolu.
Le régime Issoufou reste confiant de sa victoire et dénonce les manœuvres de l'opposition. Quant aux différentes missions d'observation, elles se sont limitées à constater le caractère paisible de ces élections malgré des problèmes d'organisation. Écoutons Jean Eyegendong qui dirige la mission d'observation de l'Union africaine.
Cette élection a permis au peuple nigérien de choisir son président de la République et ses députés librement et dans la transparence. La mission exhorte les partis politiques, les candidats et leurs supporters à respecter la volonté du peuple telle qu'exprimée à travers les résultats officiels et à recourir, le cas échéant, uniquement à la voie légale pour toute contestation éventuelle.
Cette journée de mercredi s'annonce donc décisive pour la suite du processus politique au Niger. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur les élections générales au Niger. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ils devaient voter entre 15 candidats pour présider le pays. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais les résultats seront-ils acceptés par tous? Après 4 coups d'État dans son histoire et la menace de Boko Haram, de quoi sera fait l'avenir du Niger? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Les Tchadiens ont largement suivi à N'Djamena, comme en province, le mot d'ordre « ville morte » de la plateforme « Ça suffit », demandant le départ du président Idriss Déby Itno. Nathalie Barge a demandé à Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, quel regard portait le pouvoir sur cette crise politique au Tchad.
Écoutez, je ne sais pas s'il y a crise. Je dirais plutôt que c'est la preuve de la vivacité de la démocratie tchadienne. Il y a la liberté d'expression, il y a des associations qui ont décidé de s'exprimer. C'est le fonctionnement normal d'un État démocratique.
Vous parlez de liberté d'expression. Le 23 février, il me semble que les opposants n'ont pas pu s'exprimer librement, la marche qu'ils avaient prévue ayant été interdite.
Ce n'est pas que la marche était interdite. Je vous rappelle que le délai de 5 jours au moins requis pour une telle marche n'a pas été respecté. Ce n'est pas qu'on leur a interdit pour quoi que ce soit, mais pour non-respect des textes réglementant les manifestations en République du Tchad.
Ce 24 février est une journée ville morte qui a l'air de très bien fonctionner, à N'Djamena notamment et à Moundou.
Écoutez, moi je ne sais pas si on peut dire que cette journée ville morte a marché.
Le grand marché est complètement fermé.
Très bien. Et vous savez pourquoi le grand marché était fermé? Parce que tous les commerçants, dès qu'ils ont entendu qu'il y aura ville morte, ils se sont dit, mais attendez, il faut qu'on barricade nos échoppes pour éviter que des badauds ne viennent encore incendier comme ça s'est passé à Massaguette. Ce n'est pas parce qu'ils ont respecté le mot d'ordre. Mais je dis que demander l'observation d'une ville morte sous prétexte d'empêcher le président Déby de ne pas se présenter, les seuls qui peuvent juger sont les populations tchadiennes, c'est-à-dire le peuple tchadien, et lors d'une consultation électorale. Or, il se trouve que le président Déby a été investi par son camp, candidat aux élections présidentielles, que les partis de l'opposition ou bien les associations de la société civile qui jouent beaucoup plus le rôle de l'opposition que de la société civile attendent et conscientisent les gens au moment du vote, notamment le 10 avril, pour que bon, qu'on soit battu par les urnes.
C'est justement ce qui a été fait par Saleh Kebzabo. Il a effectivement appelé ses concitoyens à se préparer au vote. Cependant, la manifestation, la marche pacifique d'hier a été interdite et aujourd'hui, M. Kebzabo a même été empêché de quitter le territoire pour aller à Paris.
Il appartient au Parlement.
Il a dit qu'il était en vacances parlementaires.
Ça, c'est lui qui le dit. Quand j'étais ministre, si je veux voyager, je vais dans des voyages privés, je suis obligé de prendre mon passeport ordinaire. Donc, M. Kebzabo omet de vous dire s'il avait un passeport ordinaire ou un passeport diplomatique.
L'opposition demande un dialogue national. Où en êtes-vous dans ce dialogue national? A-t-il lieu ou non?
Le dialogue national, pour parler de quoi? On a un cadre national de dialogue politique au sein duquel est représentée l'opposition démocratique, notamment la CPDC, à laquelle appartient M. Kebzabo. Tout ce qui est politique se discute au sein de ce cadre national de dialogue politique. Donc, il ne faut pas qu'on cherche de faux fuyants. On est à quelques pas des élections, qu'on utilise la voie démocratique pour pouvoir être départagé.
Voilà, c'était Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, au micro de Nathalie Barge.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24h sur 24, 93.1 FM.
Et c'est officiel, depuis hier, Blaise Compaoré, celui-là même qui a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans en tant que président, est désormais ivoirien naturalisé. Comment les Burkinabés ont-ils accueilli cette nouvelle ?
Moi, c'est Noufou Compaoré, comme Blaise. Je me dis que c'est une couverture pour échapper à la justice burkinabé. Je me demande pourquoi il a accepté ça. De toute façon, il ne peut pas échapper. Il ne va pas échapper. Qu'il soit ivoirien, américain ou chinois, il ne peut pas échapper à la justice burkinabé.
C'est M. Jean Modeste. Je suis mécanicien à Ouara. J'ai honte, je n'ai même pas pu gérer ça. Je n'ai même pas pu bien dormir hier. Je suis très malade présentement là où je suis même. J'ai honte parce que si le premier de Burkinabé est devenu ivoirien, mais que deviendront les autres? Il a peur de la justice.
Je suis Madame Fatiwe Drogo. On n'a pas le choix, sinon c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque Alassane a déjà signé d'après. Mais avec tout ça, on va se plaindre toujours contre lui. Il va répondre. Ça nous fait très très mal. Parce qu'il est burkinabé. Il a dirigé ce pays par un cas 27 ans. Par prendre la nationalité pour fuir la justice. Je ne suis pas contente.
Drogo Abubakar, moi ça me fait très mal que notre frère président Blaise Compaoré prenne la nationalité ivoirienne. On sait qu'il a pris une famille ivoirienne. Mais quel que soit, il est toujours burkinabé.
Ludovic Lalogo, voilà, je suis citoyen burkinabé. Je suis surpris que l'ancien président du Burkina Faso ait pris la nationalité ivoirienne. C'est bon, vraiment, je suis surpris. Ça, c'est la première des choses. Et je me dis, qu'est-ce qui pourrait amener les autorités ivoiriennes à naturaliser un ancien président, un président d'un pays voisin qui est poursuivi par les autorités de ce pays pour beaucoup de crimes? Bon, ça rime à quoi? Nous sommes en train de nous poser des questions.
Voilà, à propos recueilli à Ouagadougou par notre correspondant Zoumana Ouenougo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La commission électorale comorienne a publié dans la nuit les résultats provisoires de la présidentielle du dimanche. Sur les 25 candidats en lice, 3 ont émergé pour le second tour prévu le 10 avril. Il s'agit de l'actuel vice-président des Comores et candidat du parti au pouvoir, Mohamed Ali Soueli, arrivé en tête devant Mouini Baraka, le gouverneur de l'île de la Grande Comore. Le colonel Azali Assoumani, ancien président, qui vient en troisième place. Ces résultats suscitent les protestations de certains candidats. Pour les précisions, Timothée Donangmaï a joint à Moroni l'analyste Mohamed Changama.
Il y a eu de la part de monsieur, de maître Fahani et du parti Djouan de Sanli des protestations importantes. Un communiqué a été publié qui appelle aux autorités de revoir et à la CENI de revoir, de décompter les résultats parce que sinon la situation pourrait devenir dangereuse parce que le parti menace d'appeler à la population en quelque sorte. Il y a eu aussi une protestation, pas du même genre, mais du côté des partisans du président Azali, qui met en cause ce classement. Alors lui, il est classé troisième, mais eux disent que, suivant les décomptages qu'il y a eu, il devait être classé premier.
Faut-il craindre une perturbation du processus électoral du fait de ces protestations ?
Il se dit beaucoup de choses, hein, certainement, le parti Djoua est un parti important puisque à Moroni, la capitale, c'est un bastion électoral pour eux. Donc, ils ont des partisans. On a vu que dans l'île d'Anjouan, c'est la force politique incontestée de l'île d'Anjouan, loin devant les autres. Donc, c'est une force capable de mobiliser. Maintenant, est-ce qu'ils veulent aller à des affrontements ? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que d'autres forces politiques suivraient ? Pour le moment, la situation est assez floue. On ne sait pas. Il n'y a pas d'histoire d'affrontement violent. Il n'y a pas de précédent d'affrontement violent suite à des élections aux Comores. Enfin, en tout cas, pas qui durent. Hein.
L'analyste Mohamed Changama joint à Moroni aux Comores.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
la fin de cette édition. À la mise en onde de Lionel Gallimard, à la console Tian Wang. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser, si vous voulez partager des photos sur ce qui fait l'actualité chez vous, notre page Facebook VO Afrique est à votre disposition. Et pour plus d'infos 24 sur 24, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.